Avant que ce soit réparé, est-ce que vous m'entendez correctement? Bon, très bien. Bon, désolé pour ces questions techniques. Il y a eu une manifestation hier soir et tout est débranché là-bas de manière un peu bizarroïde. Et donc, je ne sais pas le réparer moi-même. Voilà, bienvenue pour cette rencontre qui porte sur le changement des conditions, changer les comportements alimentaires, nécessités et risques. On pourrait dire que l'idée de cette réflexion, elle vient de la prise de conscience de différentes urgences écologiques, dont sans doute la plus perceptible est celle du climat. Et on pourrait dire qu'aussi au regard de cette urgence, les changements d'alimentation paraissent peut-être moins importants et moins nécessaires que l'amélioration de la qualité de l'air, le bilan carbone et le réchauffement climatique. Pourtant, la qualité des aliments et l'adéquation des modes de nutrition et le style de vie deviennent des enjeux majeurs pour les citoyens, pour la santé publique et pour la démarche écologique. Des prises de conscience sont de plus en plus perceptibles. On voit d'ailleurs les évolutions puisque les rayons de supermarchés sont de plus en plus fournis en aliments certifiés de manière diverse biologique. Et les conditionnements de ces produits, souvent par des plastiques, sont aussi l'objet de grandes attentions de la part de plus en plus de personnes. Mais on pourrait dire que l'enjeu n'est pas seulement celui de la qualité des aliments, mais aussi celui de la diversité des aliments. Et régulièrement sont pointés, notamment de manière plus particulière, les effets négatifs d'une surconsommation de viande, à la fois sur la santé individuelle et sur la santé de notre écosystème. L'alimentation devient de plus en plus une préoccupation de santé personnelle, de santé publique et de cohérence écologique, on pourrait presque dire de santé écologique, si on voulait créer ce terme-là. La conscience de ces enjeux a conduit à des changements de comportement alimentaire et parfois ce que nous avons appelé aussi à certaines modes. Produits bio, végétariens, véganes, flexitariens, toute une série de régimes amaigrissants, régimes sans gluten, etc. Compte tenu de cette importance, il faudrait opérer, à mon sens, une analyse en trois niveaux. On pourrait d'abord dire au niveau global, qui est à la fois au niveau sociologique et philosophique, une analyse des changements à l'œuvre dans l'ensemble des mouvements écologiques. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Quelle prise de conscience? Et aussi, quelles analyses des projets sociopolitiques, quelles justifications de ces projets sociopolitiques, quelles conceptions nouvelles du progrès, quelles modalités et quelles conditions de changement. On pourrait aussi se focaliser sur l'analyse des acteurs importants. Qui sont-ils? Quel rôle jouent-ils? Courant écologique, groupe politique, groupe idéologique, industrie alimentaire. Il y a beaucoup d'acteurs, de groupes, d'acteurs importants. Quels sont les discours, les intérêts qui animent ces désirs de changement? On pourrait dire d'abord une analyse assez globale, sociologique, philosophique, sur ce qui est en train de se passer. Ce sera peut-être votre première partie que je vais mentionner tout à l'heure. On pourrait aussi analyser ça de manière plus particulière, notamment en se focalisant sur différents mouvements actuels, qui réclament d'autres comportements alimentaires. Tous n'ont pas la même conception de ce que réclame la transition écologique, de ce que nous devrions promouvoir individuellement et collectivement comme type de nourriture, comme comportement alimentaire. Tous n'ont pas la même conception non plus de l'éthique du rapport aux êtres vivants. Jusqu'à présent, il y a quand même beaucoup d'êtres vivants qui servent pour notre nourriture. Donc plus particulièrement du rapport à l'animal. Tous n'ont pas les mêmes conceptions des orientations économiques provoquées par les changements alimentaires ou suscitées par les changements alimentaires. Dans cet ensemble de préoccupations, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le rapport à l'animal est devenu un sujet de plus en plus important, de plus médiatisé, parfois même de manière violente quand il s'agit de dénoncer la violence, sur les violences exercées notamment par la production en masse ou l'élevage en masse. On a vu ça dans les journaux et la télévision ces derniers mois. Donc l'analyse de mouvement. Il faudrait les replacer aussi dans des grandes traditions, les grandes cultures. Toutes les cultures véhiculent un certain type de rapport à l'alimentation, des traditions alimentaires, qui sont aussi des traditions de plaisir, on l'évoquait à table, n'est-ce pas ? Les aliments, ce n'est pas seulement manger, et l'homme a cette grande capacité, cette spécificité d'être un homme qui s'entretient avec d'autres, si possible, quand il mange. Sinon, c'est un peu frustrant. En tout cas, nous avons une culture française de l'alimentation, de la convivance, de la dégustation, le fait de savourer à la fois des mets et des mots en même temps. Savourer des mets et des mots. Et nous nous nourrissons de mets et de mots, pas de mots, mais de mots. Voilà. Donc il faudrait prêter une grande attention à ces cultures qui soutiennent aussi, on pourrait dire, des comportements alimentaires, des grandes traditions culinaires aussi. Et en France, la tradition des terroirs, je regarde pas beaucoup la télévision, mais de temps en temps j'allais visiter mon père et il y avait une certaine Julie qui se promenait dans tous les territoires de France en révélant, en montrant les grandes traditions et en faisant s'asseoir des gens autour de la même table et en faisant déguster des aliments. C'est une sorte de convivance première, je trouve, qui témoigne d'un art, de la culture, on pourrait dire de l'humanité. Savoir déguster ensemble, s'entretenir ensemble, préparer ensemble aussi. Il y a un art de la préparation. La nourriture, c'est ce qui nous attache le plus à nos fondamentaux, à nos familles, avec ceux avec qui, pendant des années, de longues années, nous avons partagé le repas. Et sans doute, pour la plupart d'entre nous, ce que nous préparait notre mère pendant longtemps nous a laissé une saveur particulière. Voilà. Bon. Il faudrait tenir compte de tout ça. Donc, les styles de vie et les comportements profondément enracinés dans des cultures et des terroirs. De ce point de vue, les traditions sont d'immenses richesses, et par rapport aux changements qui sont demandés aujourd'hui, peut-être aussi des freins à des changements de comportement alimentaire. Deuxième étape. Troisième étape qui va nous préoccuper le plus, c'est d'évaluer les changements en cours et les changements qui sont promus par certains courants, en demandant l'aide d'un tiers essentiel, la médecine et les médecins. La nourriture est à la fois un plaisir, du moins dans la tradition française, et également un facteur de santé. Que nous disent les recherches médicales, qui étudient non seulement les comportements alimentaires, mais aussi les effets des régimes alimentaires, qui sont parfois prescrits, ou que les gens se prescrivent eux-mêmes en fonction de leurs souhaits, de leurs orientations. Que nous disent donc les praticiens qui accueillent des patients souffrant de pathologies spécifiques liées au mode d'alimentation? Alors, un très grand merci à toutes les personnes qui vont nous aider à réfléchir à toutes ces questions-là. Nous avons été un peu perturbés par les changements qui sont pas seulement alimentaires, mais les changements de comportement, les changements de société dus à la tentative d'instauration d'un nouveau mode de retraite. Donc Thomas Depecker, qui devait nous rejoindre pour faire une analyse des comportements alimentaires et ses usages après la Seconde Guerre mondiale, qui est sociologue chargé de recherche à l'INRAE, membre du centre Maurice Halvax, s'est dédié en solidarité, puisque le centre Maurice Halvax a voté la grève de toutes les fonctions d'enseignement, d'intervention, en raison d'une protestation contre le régime des retraites et d'une protestation contre la nouvelle loi de programmation de la recherche. Voilà. Donc nous allons manquer du deuxième intervenant. Ben, nous allons faire en fonction, et puis ben, ça sera un plaisir de vous écouter plus longuement. Vous pourrez disserter plus longuement. Sans micro, j'espère qu'on va trouver un moyen de le faire réparer, mais voilà. Donc, merci beaucoup à vous de vous être déplacés en période perturbée. Nous n'avons pas prévu une petite dégustation de mets, mais j'espère que nous dégusterons des mots, en tout cas des personnes. Merci beaucoup aux intervenants qui vont nous aider à réfléchir sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans un contexte très particulier, celui de nécessaires changements, changement de type de société, changement d'idée de progrès, peut-être changement de forme de civilisation, changement peut-être de rapport aux autres êtres vivants. Voilà, merci de nous aider à réfléchir. Donc nous n'aurons pas le volet sociologique, mais nous aurons le volet de la philosophie, puisqu'il faut toujours commencer par la philosophie, ou terminer, ou en faire, ne cesser d'en faire. Donc je remercie beaucoup Yanis Konstantinides, philosophe, vous enseignez à l'espace éthique de l'Île-de-France, dirigé par Emmanuel Hirsch, et vous enseignez aussi cette très belle discipline qui s'appelle les humanités médicales à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous m'expliquiez tout à l'heure qu'il ne faut pas parler d'éthique, finalement ça dérange tout le monde, c'est trop perturbant, mais il faut retrouver des humanités. Les humanités médicales et les grandes humanités, et on pourrait dire que le repas participe à l'humanisation de la vie humaine, et que sans repas, il nous manquerait sans doute quelque chose pour accroître, conserver, et si possible accroître et développer notre propre humanité. Alors vous avez intitulé votre intervention « Le changement, c'est maintenant, point d'interrogation ». Il y a une petite veine critique que je sens dans vos propos. De la promesse légère à la réalité crue. Il y a les aliments qui sont crus, mais il y a la réalité qui est crue. Donc, merci beaucoup de nous aider à réfléchir. Donc, vous avez un peu de temps, puisqu'on n'a pas le deuxième intervenant. On n'est pas très nombreux, mais ça nous permettra d'avoir des interactions plus fortes. Voilà, merci beaucoup. Donc, d'intervenir. Le changement, c'est maintenant, de la promesse légère à la réalité crue. Ben, je suis très curieux de vous entendre.
Bienvenue à tous.
Merci beaucoup pour votre invitation. Donc j'ai essayé d'être assez généraliste sur le. Je suis désolé, le débat va probablement retomber à des phases beaucoup moins élevées, je dirais, que plus terre à terre. Donc sur le régime sans gluten, effectivement, moi je travaille donc dans un hôpital d'adultes et je suis donc des patients atteints de maladie cœliaque depuis, je dirais, quasiment 30 ans. Et on s'occupe surtout des complications graves, parce qu'on a monté un réseau sur les complications graves de l'intolérance au gluten. Parce que vous le verrez, cette maladie peut entraîner des complications particulièrement graves chez l'adulte, comme des lymphomes, des cancers, des déminéralisations osseuses, des choses comme ça. Et donc, d'où l'importance de le diagnostiquer tôt et de faire un régime sans gluten. Alors, on parle beaucoup actuellement du gluten de façon probablement démesurée, à mon goût. Mais avant de parler du gluten, il faudrait savoir ce qu'est le gluten, parce qu'on avait fait une enquête, enfin, pas moi, mais avait été fait une enquête. Quand on posait aux questions aux gens qui étaient au régime sans gluten, ils ne savaient pas exactement ce qu'était le gluten. Donc, pour connaître le régime sans gluten, il faut connaître ce qu'est le gluten. Le gluten, ce sont des protéines qui sont contenus dans certaines céréales, et essentiellement celles qui sont toxiques pour les patients atteints de maladie cœliaque, ce sont celles qui sont contenues dans le blé, le seigle et l'orge, et ces deux protéines, les glutéines et les gliadines, qui confèrent, après réalisation de la farine, et une élasticité, des propriétés viscoélastiques qui permettent au pain d'être onctueux et malléable, et de pouvoir créer des produits à base de préparation qui vont être comme la chapelure, qui vont permettre de donner une certaine palabilité aux aliments. Et maintenant, ça s'est diffusé, ce gluten est utilisé dans l'alimentation de façon très générale, et notamment dans l'industrie agroalimentaire. On en trouve partout, dans le jambon, dans des tas de produits préparés. Ce qui fait la grande difficulté à suivre un régime sans gluten, c'est parce qu'on en trouve finalement partout et que c'est très difficile de l'éviter. Pour vous donner un ordre d'idée, ça a été une des causes, par exemple, qu'on avait trouvé, je ne sais plus si c'est encore le cas, c'était lors de la communion à la messe, c'était les hosties sans gluten, et oui, qui n'étaient pas détectées. Certains patients, qui donc, où on n'avait pas fait communion chaque semaine, reprenaient un petit peu de gluten. Et il y a eu tout un débat à l'époque, je ne sais pas s'il est réglé, mais sur la possibilité ou non de faire des hosties sans gluten. Alors, je ne sais pas si ça a été tranché, ou, mais en tout cas, c'était une des possibilités de contamination récurrente par des petites doses de gluten. Alors, l'intérêt actuel du gluten dans la population générale, vous voyez, ça c'est aux États-Unis, on voit que l'intérêt pour le gluten est en croissance énorme, alors que l'intérêt pour la maladie liée au gluten, qui est la maladie cœliaque, n'a pas beaucoup bougé. Alors que quand on voit, par exemple, aux États-Unis en 2006, c'est les petites taches en violet en haut, en 2006, je ne sais pas si j'ai une flèche, mais non. Non. Donc on voit, merci, c'est au milieu là. Vous voyez les petits, ça c'est 2006 aux États-Unis, on voit les petites taches violettes, c'est les endroits où on suivait le régime sans gluten. Et vous voyez que en 2015, hein, c'est-à-dire moins de 10 ans après, ça a inondé. Le régime sans gluten s'est diffusé à la vitesse de l'éclair et est devenu extrêmement populaire, entre guillemets. Alors, j'ai pas de chiffres pour l'Europe, encore moins pour la France, mais généralement, ce qui se passe aux États-Unis, ça vient on va dire entre 10 et 15 ans après. Alors, quand on interroge les gens, toujours aux États-Unis, c'est les chiffres de Columbia qui avait fait cette étude. Quelle est la raison de ce régime sans gluten? Ben, la principale raison, c'est sans raison. Donc, c'est une bonne raison, c'est sans raison. Et puis les autres raisons, c'est bon, j'ai une hypersensibilité au gluten, je pense que c'est bon pour la santé, c'est pour perdre du poids, c'est pour me sentir mieux, pour être plus en forme, pour améliorer mes performance sportive, on verra si vous voulez, parce qu'il y a aussi une thématique sur régime sans gluten et sport, qui est très populaire, Djokovic, qui l'a beaucoup médiatisé. Alors, qu'en est-il réellement sur le plan, et moi je vais rester, alors malheureusement je serai peu sur le plan philosophique, c'était très brillant, mais je resterai un peu plus sur le plan des données que je connais. Donc sur les maladies liées à l'ingestion de gluten, de l'ingestion de ces protéines. Schématiquement, il y a trois entités distinctes avec des mécanismes très différents. Il y a les allergies, mais qui rentrent dans le cadre des allergies alimentaires, qui sont, chez l'adulte, encore relativement rares. Et c'est essentiellement plus que le gluten, c'est le blé. Enfin, je pense que Patrick Dian connaît ça beaucoup mieux que moi et vous en reparlera peut-être, je ne sais pas si... Des allergies, donc je ne vais pas l'évoquer, c'est des gens qui font des manifestations immédiates quand ils mangent le produit, qu'on peut faire des allergies aux arachides, aux... Donc ça, je ne vais pas en parler. Il y a la maladie cœliaque dont je vais parler, qui est la véritable, ce qu'on appelle intolérance au gluten, qui est une maladie extrêmement bien documentée, dont on connaît bien les mécanismes, et dont la prévalence est beaucoup plus élevée qu'on ne le pensait, puisqu'elle est estimée à l'ordre de 1% de la population générale, et ceci dans quasiment tous les pays du monde, hormis peut-être au Japon, pour des raisons génétiques. Et puis, il y a une nouvelle, alors je ne sais pas si on peut qualifier cette maladie, mais une nouvelle entité qu'on appelle l'hypersensibilité non cœliaque au gluten, dont je vais vous toucher également quelques mots, et puis on pourra parler effectivement après de façon plus sur le bénéfice potentiel ou non du régime sans gluten dans le sport, dans d'autres maladies. Alors le paradoxe actuel du régime sans gluten, c'est que vous avez à gauche des patients en rouge qui sont atteints d'une maladie cœliaque, et vous voyez qu'il n'y en a qu'une partie en fait qui suivent le régime sans gluten parce qu'ils ont probablement un manque de diagnostic initial. Et vous avez les individus qui se sont mis au régime sans gluten pour différentes raisons. Et finalement, parmi ceux-là, il y en a peu qui ont une maladie cœliaque, qui est l'indication principale du régime sans gluten, au moins sur le plan médical. Alors la maladie cœliaque, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qu'on appelle une entéropathie auto-immune, c'est-à-dire qu'on développe des anticorps contre soi-même, qui est induit par le gluten chez des sujets qui ont une prédisposition génétique. C'est-à-dire tout le monde ne va pas la faire. Il faut avoir un HLA DQ2, DQ8 de prédisposition. Et chez ces patients, progressivement et pas à pas, on passe d'un état normal. C'est là on voit les villosités en doigt de gant qui permettent les villosités. Ce sont la peau interne du petit intestin, qu'on appelle l'intestin grêle, qui permettent l'absorption des nutriments, l'absorption du calcium, l'absorption du fer, et donc de constituer un peu les muscles, l'os et le fonctionnement du corps humain. Et progressivement, à la suite de cette de cette ingestion et de cette réaction immunitaire qui se crée au sein de cet intestin grêle, il se passe une atrophie villositaire, c'est-à-dire que les parois internes de l'intestin grêle s'atrophient et absorbent bien, deviennent plus lisses. Et si vous voulez, pour vous dire schématiquement, on passe de la surface de 4 terrains de football, je ne sais pas si ça a été vraiment mesuré, c'est l'image, à un terrain de football suivant en termes de surface d'absorption quand on a cette atrophie villositaire. Et parfois des symptômes, et on verra ce qui fait toute la différence, c'est qu'on n'a pas toujours des symptômes très, très clairs. Alors les mécanismes de la physiopathogénie, c'est-à-dire des causes, comment ça se construit, sont extrêmement bien étudiés, ont été démembrés depuis de nombreuses années, restent encore un peu obscurs pour certains. Schématiquement, on a l'antigène alimentaire, on a un terrain génétique de prédisposition, qui est schématiquement c'est un gène, un phénotype génétique qu'on dit le HLA DQ2 ou DQ8, qui va conduire à cette atrophie villositaire, mais il y a probablement d'autres facteurs, puisque par exemple les jumeaux apparentés monozygotes ne vont développer la maladie de façon concordante que dans 70% des cas, et il y a donc probablement d'autres facteurs extérieurs, et ont été cités des infections dans l'enfance, rotavirus, d'autres virus, et peut-être également il y a un débat, mais qui est pour l'instant pas du tout tranché, sur la modification des céréales au fil des années, et la modification du gluten, qui a peut-être joué. Alors, c'est une maladie extrêmement complexe, hein, où on voit que se mettre en cause des tas de mécanismes inflammatoires immunologiques, c'est une maladie inflammatoire, puisqu'actuellement, on vient de finir un essai sur des molécules, des biothérapies qui bloquent les mécanismes inflammatoires dans cette maladie, mais je ne vais pas les détailler parce qu'ils sont assez complexes, mais passionnants. Alors, la maladie cœliaque, c'est pas une nouvelle maladie. Elle a été décrite la première fois, je crois que c'est dans l'Antiquité. Ça vient probablement du bassin fertile. Ça s'est développé. Enfin, les premières descriptions remettent aux médecins grecs. Et ça s'est développé dans le croissant fertile de la Turquie, où on a commencé à cultiver le blé, à développer l'agriculture avec le développement. On la connaissait, on savait ce que c'était, mais on ne savait pas à quoi c'était dû. Et c'est un phénomène historique d'un pédiatre hollandais, le docteur Dick, qui a observé pendant la guerre des enfants qui étaient atteints de ce qu'ils appelaient une sproue. Les Hollandais appellent sproue, parce que c'est sproue en vieux flamand, ça veut dire aft. A observé de façon très clinique, hein, c'est de la recherche clinique, que les enfants dont il s'occupait avant, qui étaient malades, qui avaient de la diarrhée, qui maigrissaient, pendant la guerre et le blocus, ils n'ont plus de céréales, donc ils allaient mieux, ils étaient en train de revivre après la suppression des céréales, et lors de la libération et la réintroduction des céréales, ils sont redevenus malades, et c'est là il a fait le lien, et bien avant les anticorps, avec le lien entre les céréales, et puis après on a affiné avec le gluten et différentes céréales. Donc cette recherche clinique a abouti au traitement, quoi, en 1900. Il a passé sa tête, je crois, dans les années 50. Et on a maintenant bien mieux démembré cette maladie. Avant, on pensait que c'était une maladie de l'enfant, et maladie de l'enfant qui était surtout caractérisée par des diarrhées, des douleurs abdominales, des malabsorptions, et on pensait que c'était exceptionnel chez l'adulte. Et en fait, au fil des années, avec le démembrement de cette maladie et la découverte des anticorps pour détecter la maladie, on est rentré sous l'iceberg, au niveau de sous la mer. On a découvert que cette maladie pouvait se révéler par des symptômes beaucoup plus faibles, comme l'anémie isolée, la carence en fer, dont on parlait tout à l'heure, les maux de ventre, une alternance de diarrhée et constipation, des aphtoses buccales récidivantes, des troubles de la reproduction, des troubles neurologiques, des déminéralisations osseuses. Et chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était une maladie potentiellement extrêmement fréquente en population, de l'ordre de 0,5 à 2% suivant les échantillons étudiés, donc ce qui représenterait plus de 2 millions en Europe, plus de 2 millions aux États-Unis de potentiels atteints de maladie cœliaque, et probablement entre 10 et 20% seulement diagnostiqués pour l'instant. Donc ce qui fait qu'on est passé des textbooks qui étaient uniquement de l'enfant, avec maintenant une population qui est beaucoup plus tout un chacun, hein, c'est-à-dire des gens qui se plaignent qui sont parfois souvent mineurs, un peu atypiques, sans forcément avoir le tableau caractéristique de la triade diarrhée, douleur abdominale, malabsorption qu'on avait auparavant. Et voici, par exemple, chez l'adulte, on peut avoir deux tableaux cliniques complètement différents avec un même type d'atrophie. Vous avez d'un côté une atrophie villosité totale en bas, qui est la même chez les deux patientes, ce sont des patientes adultes. Il y en a une à gauche qui est totalement dénutrie avec malabsorption, alors que l'autre, à qui on a fait le diagnostic, n'était pas du tout en carence, voire même l'inverse, avec plutôt même un surpoids. Donc cette maladie qui, a, en théorie, devrait induire une malabsorption, puisqu'on a une atrophie villosité, pour des raisons qu'on ignore, ne l'induit pas toujours, ce qui en fait la difficulté diagnostique. Et en effet, on a actuellement, avec les nouvelles séries chez l'adulte, 30% des nouveaux cas diagnostiqués chez l'adulte sont à un stade de surpoids ou d'obésité, ce qui était un peu contre ce qu'on avait appris dans les livres. Et 20%, ce qui est énorme, sont diagnostiqués après l'âge de 60 ans. Alors probablement qu'elles ont eu des retards au diagnostic, mais on peut tout à fait diagnostiquer à un âge tardif cette maladie. Et il y a de plus en plus de formes, on va dire, atypiques ou frustres. Je vous citais l'anémie, par carence, le plus souvent en fer, mais aussi en folate ou en vitamine B12. Il y a des modifications des enzymes du foie, des transaminases, des hépatopathies, des aphtoses buccales récidivantes, c'est-à-dire des aphtes à répétition dans la bouche, des troubles qu'on dit qui ressemblent à ceux du côlon irritable, des troubles fonctionnels intestinaux avec des alternances de diarrhée et de constipation. Des troubles neurologiques également qui peuvent être au premier plan, ce qu'on appelle le neurocéliaque, avec des troubles de l'équilibre, ataxie, des migraines chez les adolescents qui ont été décrits, des épilepsies, des problèmes rhumatologiques avec des déminéralisations osseuses, des arthralgies un peu atypiques, des problèmes de reproduction comme la stérilité, la ménopause. Puis on a de plus en plus de cas qui sont diagnostiqués en l'absence de symptômes, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun symptôme. Alors, est-ce que ces gens, ces patients, alors je ne sais pas si on peut les appeler des patients, mais oui, en fait, ce sont des patients, n'ont pas de symptômes et on les découvre de façon systématique à l'aide d'anticorps, notamment chez les apparentés au premier degré, atteints de maladies cœliaques, d'autres maladies auto-immunes, et en particulier le diabète de type 1, le diabète à l'insuline, où là, le typage génétique est probablement le même que celui de la maladie cœliaque. Et chez ces patients, on a un risque augmenté d'être aussi atteint d'une maladie cœliaque. Alors, les maladies auto-immunes associées à la maladie cœliaque, les deux principales, ce sont le diabète de type 1 et la thyroïdite auto-immune, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres. Et une maladie aussi cutanée qu'on appelle la dermatite herpétiforme, qui sont des lésions qui sont prurigineuses, c'est-à-dire qui grattent au niveau des coudes et des genoux, et qui sont, dans 70% des cas, associées à une atrophie villosité, et qui peuvent guérir après le régime sans gluten. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de maladie cœliaque? C'est maintenant relativement simple, hein, puisque si on a une suspicion clinique, et je dirais que c'est la plus grande difficulté, vu le polymorphisme de la maladie, le peu de symptômes parfois, ou les symptômes extrêmement hétérogènes. Mais une fois qu'on suspecte la maladie, on peut faire un test sérologique, très simple, une simple prise de sang, il y a même des tests rapides au doigt maintenant qui se développent. Et ces anticorps qu'on appelle les anticorps anti-transglutaminase, hein, qui sont actuellement les seuls remboursés en France par la sécurité sociale, et qui ont une sensibilité, une spécificité de plus de 90% pour le diagnostic de maladie cœliaque, vont conduire, en tout cas chez l'adulte, chez l'enfant, peut-être que le professeur Tounian en dira un mot, vont conduire chez l'adulte à confirmer le diagnostic par des biopsies, c'est-à-dire qu'on fait un petit prélèvement de l'intestin de ces patients lors d'une gastroscopie, c'est-à-dire qu'on a une petite caméra par la bouche, on passe à travers l'œsophage, l'estomac, et on va prélever un peu des petits fragments de muqueuse qui vont montrer la présence d'une atrophie villositaire. Et c'est seulement après cela que l'on va introduire un régime sans gluten qui sera, on va le voir, strict et pour l'instant à vie. Et l'endoscopie, vous voyez cet aspect, ça c'est un aspect normal en endoscopie, qu'on regarde à l'intérieur avec une endoscopie, on voit très bien les villosités qui sont développées. On a une sorte d'aspect qu'on dit pavimenteux, comme des pavés, ou alors ce que les anglo-saxons appellent des scalloping folds, C'est-à-dire, c'est comme des noix de Saint-Jacques. Il faut regarder les noix de Saint-Jacques, puisqu'on parlait de l'alimentation, de près. Je vous rappelle que les coquilles Saint-Jacques ont 200 yeux pour vous regarder quand vous les regardez. Je vais faire la culpabilité alimentaire tout à l'heure. Et donc, c'est les scalloping folds. Et ces biopsies seront, même si maintenant on a avec des loupes quasiment en direct, en live, dans nos endoscopes, elles vont être analysées par un microscope, par des anatomopathologistes qui vont lire et qui vont montrer la grande différence entre le normal, bien développé en doigt de gant, et l'atrophique, qui est complètement plat. Alors, je vous ai pris des images caricaturales, parfois c'est moins simple, mais généralement. Alors, les anticorps, maintenant, ils se sont développés, ce qui a permis de voir un peu l'ampleur de la maladie qui était peu connue il y a encore une vingtaine d'années, avec notamment tous les anticorps qui sont disponibles sur le marché depuis. Et que pour l'instant, en France, on recommande de réaliser les anticorps antitransglutaminase, puisque ce sont les autres anticorps, il y aurait des très bons, mais pour l'instant, on ne va pas mélanger le débat. Ça n'apporte pas un gain supplémentaire massif d'utiliser d'autres anticorps, hormis dans quelques cas spécifiques. Les biopsies, il faut faire un certain nombre de biopsies, mais ça, c'est, je dirais, carrément du domaine de l'ultra spécialiste. Et l'aspect va donner ces aspects, soit d'atrophie totale ou subtotale, soit des atrophies parfois qui sont partielles. Alors, un des problèmes avec les tests, c'est que comme il y a des tests disponibles, il y a des tests complètement inutiles qui sont en vogue, en grande vogue, je dirais, et même dangereux, voire scandaleux. Je sais qu'on puisse encore les faire. Et ce sont les tests de dosage IgG ou le test d'intolérance alimentaire qui sont extrêmement répandus dans certains pays et qui commencent à arriver à être... qui n'ont aucune valeur scientifique, hein, qui testent des sortes de contacts entre un aliment, mais qui ne diagnostiquent absolument pas une maladie et qui... En tout cas, dans mon expérience, parce que chaque fois les patients viennent me voir avec ces tests, je pense qu'en pédiatrie, c'est un peu le même problème, induisent des dangers de restrictions alimentaires multiples et variées, voire ce qu'on appelle de l'orthorexie alimentaire. C'est-à-dire que les gens se mettent sans gluten, sans lactose, sans ceci, sans cela. Et là, il y a un réel danger. Et pourtant, malgré plusieurs signalements à l'ordre et autres, il ne s'est jamais rien passé pour ces tests continuent à être diffusés. Alors, peut-être qu'on ne trouve pas de solution pour les gens qui les cherchent. Alors, le traitement de la maladie cœliaque, une fois qu'on a fait le diagnostic, il est relativement simple sur le papier, c'est le régime sans gluten. Une fois qu'on a un traitement purement de pression d'aliments, on va dire c'est miraculeux. Il faut supprimer juste le blé, le seigle, l'orge. L'avoine est autorisée chez les patients atteints de maladie cœliaque sous réserve de l'absence de contamination croisée. C'est un régime qui peut être coûteux, mais même en France, où on a un système qui est relativement bien développé, il y a une prise en charge pour les adultes d'ordre de 45 euros par mois et 30 euros par mois. C'est un régime, en fait, dans les faits, qui est quand même assez difficile à suivre. Parce que le gluten, on le trouve partout, on le trouve en société, on le trouve gluten caché, entre guillemets. Donc c'est bien d'être conseillé par une diététicienne, par les associations de patients. Et quoi qu'il en soit, l'observance est assez complexe. Hein, et on voit les deux, où ça a été étudié, que ce soit en France ou aux États-Unis, on arrive à quand même à 50% d'erreurs involontaires sans des gens qui commencent seuls. Plus il faut une certaine motivation, surtout quand on n'a pas de symptômes. Alors c'est tout le paradoxe, hein, c'est que les patients qui, moi je suis des patients qui ont une maladie cœliaque, puis d'autres maladies qui ont des maladies de Crohn, qui ont d'autres maladies inflammatoires. Ceux qui ont la maladie cœliaque qui n'en peuvent plus de suivre le régime sans gluten me disent « vous n'auriez pas un médicament à la place du régime ». Et ceux qui ont des médicaments, des biothérapies, des médicaments extrêmement complexes me disent « mais est-ce que vous n'auriez pas un régime pour que j'arrête les médicaments ?» Alors, donc il y a une recherche actuellement pour développer des médicaments dans cette maladie cœliaque. Il y a des enzymes qui sont en cours d'évaluation, qui vont peut-être arriver sur le marché, qui permettent de se protéger temporairement quand on va chez des amis ou autres pour détoxifier le gluten. Il y a des vaccinothérapies très intéressantes, mais qui, là, malheureusement, en phase 2, viennent c'est-à-dire de réinduire une tolérance au gluten. C'était l'équipe d'Harvard, de Bob Anderson, qui développé cette théorie qui était passionnante, et là, je suis pas sûr qu'elle aille au bout, parce que et puis on a d'autres biothérapies, comme nous on a testé, là on vient de publier dans l'Lancet l'utilisation des anticorps anti-IL-15 dans des formes très complexes, qu'on appelle des maladies cœliaques réfractaires, qui évoluent vers une complication maligne, le lymphome, donc c'est quand même un petit peu différent. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut suivre un régime sans gluten strict chez les patients une fois qu'on a fait le diagnostic de maladie cœliaque? Parce qu'on a des complications. On a des complications qui sont de trois types. Une très fréquente, c'est la déminéralisation osseuse. Pourquoi? Parce qu'on absorbe mal le calcium et la vitamine D. Et donc, on induit forcément une déminéralisation au fil du temps. On va probablement peut-être moins bien réagir lors des phases de déminéralisation comme la ménopause. Et on peut avoir des déminéralisations très sévères chez les patients. Et donc, il faut rechercher cette déminéralisation, par exemple, chez les gens qui ont des déminéralisations osseuses sans cause connue ou de façon un peu précoce. Il y a la survenue d'autres maladies auto-immunes. Quand on ne suit pas le régime sans gluten, on peut développer d'autres maladies auto-immunes, maladies de la thyroïde, maladies du foie, etc., etc. Et puis, fort heureusement, de façon rare, mais quand même pas si rare que ça, puisqu'on a quand même été labellisé, moi je coordonne un réseau cancer rare de l'INCa sur cette thématique, c'est le réseau CELAC, et c'est des lymphomes qui compliquent la maladie cœliaque de façon rarissime mais extrêmement grave, avec des taux de mortalité extrêmement élevés, de l'ordre de quasi 90% des sporos réfractaires, et ça, ça peut être prévenu par un bon suivi du régime sans gluten chez les patients qu'on a diagnostiqué préalablement. Alors donc, cette maladie cœliaque, il faut y penser. Il faut la traiter sans doute avec un régime sans gluten pour améliorer les symptômes quand il y en a, même s'ils sont minimes ou atypiques, puisque souvent, les gens s'améliorent, se sentent un peu mieux. Et puis également, pour prévenir les complications potentielles malignes, mais aussi auto-immunes, osseuses, et probablement améliorer, diminuer la mortalité. Pour faire le diagnostic, c'est assez simple. Une seule prise de sang, c'est quand même pas très compliqué. Et puis, compléter ou non. Alors, pourquoi ça s'est médiatisé actuellement et ça s'est emballé, le régime sans gluten? Parce qu'il y a une autre entité qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui a été remise un peu au goût du jour, qui est cette hypersensibilité non cœliaque au gluten, qui est une sorte de colopathie au gluten, pour moi, enfin, en termes de... C'est-à-dire, c'est quoi la définition de cette hypersensibilité non cœliaque au gluten? Ce sont des symptômes digestifs et extra-digestifs déclenchés par l'ingestion de gluten, qui disparaissent ou s'améliorent après l'exclusion du gluten et qui récidivent lors de la réintroduction du gluten. En l'absence, bien sûr, de maladie cœliaque, d'allergie au gluten. Sa prévalence n'est pas connue. Alors, on avance des chiffres de l'ordre de 5% de la population. Je crois qu'il n'y a pas d'essai, clairement, parce que comme il n'y a pas de diagnostic très facile à faire, il n'y a pas, de mon avis, de chiffres très clairs. Enfin, c'est très médiatisé. La physiopathogénie de cette entité est peu connue. On ne sait pas si c'est uniquement le gluten ou si c'est le gluten plus les food maps. Le gluten qui favoriserait en soi déjà, c'est difficile à digérer, l'augmentation de la perméabilité intestinale, qui pourrait modifier le microbiote ou stimulerait l'immunité innée. On ne sait pas si c'est d'autres composants qui sont ingérés en même temps que le gluten. Et il y en a un des composants qui est un candidat très solide, c'est l'amylase tryptase inhibitor, c'est l'insecticide naturel du blé, qui induit une inflammation chez les sujets en l'ingérant et chez les sujets prédisposés qui augmente, active l'immunité innée et induit une inflammation et probablement des symptômes et probablement également les food maps. Food maps, ce sont des sucres fermentissibles qui sont également présents dans les céréales. Alors les manifestations digestives, elles sont variées, exactement celles des troubles fonctionnels intestinaux, mais aussi de ceux de la maladie cœliaque, ballonnement, douleur abdominale, diarrhée, douleur épigastrique, nausée, aérophagie et j'en passe. Et puis des manifestations extra-digestives qui sont également rapportées assez fréquentes, fatigue, maux de tête, mal-être, anxiété. C'est assez flou, quoi. C'est des symptômes un peu de mal-être, on va dire. Diagnostic, c'est un diagnostic d'exclusion puisqu'on n'a pas de marqueur biologique, on n'a pas de marqueur histologique puisque pareil. Et donc c'est très compliqué. C'est pas lié en tout cas au typage HLA et comme dans la maladie cœliaque, il n'y a pas de corrélation. Et la démarche diagnostique, c'est essentiellement un diagnostic thérapeutique à partir des symptômes cliniques, l'exclusion, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Et souvent, les patients viennent nous voir, ils ont déjà fait leur auto-diagnostic, ils sont self-diagnosis, comme ils disent. Et donc, ils n'acceptent pas forcément le test thérapeutique avec placebo. Et de toute façon, le placebo, hormis les essais thérapeutiques, on n'en a pas à leur proposer. Donc, c'est très compliqué de faire un diagnostic très clair de cette anti-. Moi, comme je leur dis, à partir du moment où le régime sans gluten les améliore et qu'ils sont mieux, ça ne mange pas de pain. Pour faire des mauvaises blagues, puisqu'on est... Bah, pas de la philosophie, je suis désolé. Alors, le régime sans gluten, il n'y a aucune complication d'hypersensibilité au gluten qui a été décrite à ce jour sur long terme, comme le lymphome, comme la déminéralisation osseuse. Donc, si le régime sans gluten les améliore, moi, je conseille aux patients de faire des essais de réintroduction progressive. Et souvent, on s'aperçoit qu'ils peuvent réintroduire, de prendre une sorte de régime à la demande en fonction de leurs symptômes, sans être aussi strict que dans la maladie cœliaque, où là, on a quand même des risques pour le devenir, pour le futur. Et puis, certains patients vont être, en fait, améliorés plus par ce qu'on appelle le régime FODMAPS, qui sont c'est des régimes qui sont très médiatisés, surtout dans le syndrome de l'intestin irritable. Hein. Ils sont très difficiles à suivre, que moi je préconise très peu, mais qui peuvent être intéressants, au moins pour faire passer un cap. Mais c'est quand même assez compliqué à mettre en place et à suivre. Donc on a de nombreuses interrogations sur cette entité, l'hypersensibilité non cœliaque au gluten, concernant sa fréquence. Concernant des critères objectifs du diagnostic, pour l'instant on n'en a pas, peut-être qu'on en aura, on va peut-être mieux le démembrer, c'est la pathogénie et le rôle même exclusif du gluten qui n'est absolument pas clair. Et pour l'instant, il y a même des essais qui montrent que c'est plutôt les FODMAPS que le gluten qui est plutôt en cause dans cette entité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons de suivre un régime sans gluten? Parce que c'est souvent des questions qu'on pose. Est-ce qu'il y a des raisons sportives? Alors qu'on nous a parlé de Djokovic, hein, par exemple, même la Fédération française de tennis nous a interrogé pour savoir s'il était lui. Alors ce qu'on peut répondre, c'est que pour l'instant, il y a eu un seul essai contrôlé randomisé chez des sportifs de haut niveau, c'était des cyclistes, c'était pas des tennismans, mais je pense que c'est assez extrapolable, où ils ont fait un essai en crossover, randomisé, contrôlé, avec période gluten, période sans gluten, en placebo. Il n'y a aucune différence significative en termes de performance sportive. Pas spécialiste du sport de haut niveau, mais je pense. Après, il y a aussi tout un débat, alors peut-être que vous avez entendu parler ou pas, sur les maladies neuropsychiatriques, ça plutôt dans l'autisme et le rôle de l'autisme dans le gluten. Pour l'instant, il n'y a aucun bénéfice. Alors, c'est les patients d'enfants autistes sont beaucoup en demande, parce que c'est vrai qu'on n'a pas solution thérapeutique importante et qu'il y a eu des descriptions d'associations avec l'autisme et la maladie cœliaque, mais hormis le cas où il y a une vraie association, il n'y a aucun intérêt, enfin bénéfique démontré clairement, enfin, je parle sous ton contrôle, hein, sur l'intérêt de suivre un régime sans gluten en cas d'autisme avéré. Pour les autres maladies auto-immunes, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, polyarthrite rhumatoïde, non plus, il n'y a pas de fait de preuve scientifique démontré sur le bénéfice d'un régime sans gluten, ou dans la fibromyalgie, qui est une maladie également un peu complexe, où les gens se plaignent de douleurs, de fatigue, ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. Les essais qui ont été faits dans cette entité n'ont pas montré de bénéfice. Donc il n'y a pas de Après, c'est difficile de contrôler ce qu'on appelle les fake news ou les réseaux sociaux. Et par exemple, là, c'est l'équipe de Columbia qui a recensé un peu tous les bénéfices de ce qu'étaient tous les sites internet chez les naturopathes, chez la maladie alternative. Et il y a un nombre fou de spécialités ou de spécialités paramédicales qui prônent le régime sans gluten de façon complètement non fondée, avec des tests qui n'ont aucun sens. Et il y a un réel marché, entre guillemets, monstrueux qui est en train de se mettre en place, pas que sur le gluten, mais sur l'alimentation en général, parce qu'on est plutôt avec des tests tout à fait aberrants, recherche dans les selles, marché de testing avec des propositions de produits sans gluten ou autres, qui sont pas inquiétants, mais un peu quand même. Parce que pourquoi ? Parce que le régime sans gluten, en soi, le gluten n'a aucune valeur nutritive. Donc si on le supprime, on ne va pas être malade, en théorie. Si ce n'est, il y a une seule étude qui montre quand même que peut-être ça pourrait induire de switcher à un régime sans gluten des risques cardiovasculaires, parce que peut-être que les produits sans gluten sont plus riches en sucre ou plus chargés en graisse, et ça pourrait aussi induire des modifications en modifiant son alimentation sans gluten. Peut-être qu'on se rabat sur des produits plus sucrés. Bon, le gros problème, à mon sens, enfin moi, comme je d'induire ces types de faux diagnostics, de fausses utilisations, ce qu'on appelle des orthorexies alimentaires, c'est-à-dire des jeunes gens, souvent, des jeunes filles le plus souvent, qui se restreignent progressivement avec le gluten, le lactose et les aliments pour arriver à des sortes de dénutrition ou des troubles du comportement ou des désocialisations, alors qu'il n'y a pas de preuve scientifique de bénéfice. Alors peut-être que ces gens-là, on ne sait pas leur répondre, on n'a pas de solution à leur apporter pour améliorer leurs symptômes, mais je ne pense pas que ce soit dans cette piste qu'on va les trouver, et à mon sens, c'est un petit peu dangereux. Donc je crois que j'en ai terminé, et voilà, et donc c'est tous les gens qui travaillent depuis de nombreuses années sur ces différents. Moi, je le dis dans le sens où il y a beaucoup d'interrogations de parents qui espèrent un peu, entre guillemets, une amélioration, une guérison. Alors que ça les améliore sur le plan digestif, peut-être, mais faut le bénéfice au prix d'un régime sans gluten, faut pas que leur vie soit déjà difficile, soit encore plus difficile à suivre un régime qui est quand même difficile à suivre, surtout chez ce type d'enfants. Donc, faut pas penser que ça va guérir de la maladie, c'est ça un peu donner de faux espoirs, et c'est ça qui est un peu le danger un peu de ces.
Ça ne guérit pas la maladie. D'accueillir les personnes qui autour de donc chercher dans un régime qui ne leur convient pas, enfin qui se prive de. Percevez, c'est-à-dire que, parce que évidemment c'est de votre ressort médical, mais on pourrait dire qu'est-ce qu'ils cherchent eux, et du coup est-ce que vous avez des collaborations avec d'autres, je sais pas, la nourriture se greffe plein de choses finalement.
Plus généralement, il y a quand même des croyances en énormément et peut-être à juste titre entre une certaine toxicité de certains aliments pour le corps, entre guillemets, et ce qu'on peut dire, c'est clairement le digestif, c'est aussi le tube digestif, c'est pas un mythe, c'est le deuxième cerveau, quoi.
C'est ça.
Et c'est pas un mythe, hein, c'est un mythe, je veux dire, c'est pas de dire, c'est les bilieux, quand on passe des examens, on a mal au ventre, c'est vieux comme le monde. Et donc le syndrome de l'intestin irritable, c'est connu également depuis des années. Actuellement, on est peut-être en train de le démembrer. Peut-être qu'il y a une partie du microbiote, qu'il y a peut-être certains aliments, et moi, je ne suis pas fermé du tout le fait de dire si les gens vont mieux en supprimant le gluten, je vous dis, c'est, non seulement ça ne mange pas de pain, mais tant mieux, et si les gens peuvent être améliorés. Le danger, c'est de penser à tout craint qu'on souffre d'un problème alimentaire. Parce que ce n'est pas que forcément un problème alimentaire. Donc, il faut faire la part des choses, peut-être effectivement, comme vous dites, faire une collaboration avec une prise en charge psychologique. Enfin, il y a souvent et puis parfois on ne trouve pas. Et c'est ça le problème, c'est une maladie qu'on arrive à diagnostiquer, mais qu'on n'arrive pas à guérir. Les troubles fonctionnels intestinaux, c'est pas grave, mais en termes de qualité de vie, ça pourrit la vie des gens. Et si vous n'avez pas de solution pour eux, ils vont chercher ailleurs. Ils vont chercher dans les médecines alternatives, ils vont chercher... On n'est pas apte à leur proposer une solution. Donc il ne faut certainement pas les traiter par le mépris, et, parce que là, ils vont partir. Il faut essayer de les écouter. Souvent, on améliore les choses. Peut-être les comprendre, essayer de trouver ce qui ne va pas. Ce n'est pas forcément l'aliment, ça peut être d'autres. Même le fait d'écouter, ça permet aussi d'une certaine prise en charge. Il y a d'autres techniques alternatives hein, auxquelles moi j'utilise souvent, comme l'hypnose. Qui sont améliorés. Il y a des essais contrôlés et randomisés avec l'hypnose. Alors, pas n'importe quel, ce n'est pas Mesmer qui les met la main sur la tête. Hein. C'est de l'hypnothérapie qui améliore ses symptômes dans 30% des cas environ. Ce qui n'est pas nul hein, pour quand on ne sait pas traiter. Non, je pense que l'écoute et la considération, leur dire oui, vous souffrez d'une vraie maladie. Et on la connaît, mais on ne sait pas encore la guérir. Alors peut-être qu'il y aura le microbiote, la transplantation fécale, les probiotiques, les prébiotiques. Enfin, il y a toute une science qui est en marche, mais pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée à la fin de la marche. Schématiquement, il y a certains gènes de prédisposition, mais qui ne sont pas très... ils ne sont pas monogéniques, hein, on va dire. C'est une maladie polygénique. Le typage HLA, c'est surtout... On sait que si on n'a pas le HLA DQ2, c'est 95% des céliaques, et le DQ8, c'est 5%. Si on ne l'a pas, on ne va pas développer la maladie. Enfin, il y a quelques DQ7, mais c'est exceptionnel. Et probablement, c'est d'autres cofacteurs... qui ont été des affections dans l'enfance qui probablement déclencherait un peu cette réaction immunologique. On ne s'oriente pas vers une maladie peut-être qu'à terme on saura par contre ce qu'on espère, vacciner ou faire réinduire une tolérance. Comme on en a dans les immunothérapies du cancer. Des diaclaïques, en tout cas, des atrophies induites, des maladies de Crohn induites. Comme vous voulez, hein, moi je... Oui, on pourra dialoguer, je ne bouge pas.
D'accord. Bon, ben. C'est bien. Est-ce qu'il y a du gluten dans le chocolat ?
Il y a du chocolat.
Il y a du chocolat sans gluten. Un sujet particulièrement grave, je sais qu'il est polémique aussi. Donc l'enfant, lui, n'a pas tellement le choix de choisir son régime alimentaire. Il prend ce que les parents estiment comme bon. Il peut arriver, donc, quand il y a des régimes alimentaires, découvrir des choses, de nous ouvrir sur cette réalité-là.
Merci, Monsieur Saintot, et merci pour votre invitation. Je me mets debout, parce que comme je suis petit, pour une fois, j'ai l'air plus grand que les autres. Donc, je suis pédiatre, donc je vais vous parler que d'enfants, mais vous allez voir que ça peut s'étendre aussi à l'adulte. Alors juste, je vais commencer à introduire le sujet avec le CREDOC. Vous connaissez peut-être le CREDOC, c'est une institution publique qui juge le comportement des Français, différents comportements, dont le comportement alimentaire. Donc en 2000, donc il y a 20 ans, ils prennent un échantillon de Français et ils leur demandent, quand on vous dit aliment de qualité, qu'est-ce que vous répondez ? bien, il y a 20 ans, nos compatriotes répondaient « bon et goût ». On est le pays de la gastronomie, on aime manger. Avec nos origines orientales, avec Yanis, on aime un peu plus que la moyenne manger. Et donc voilà, c'était la bonne période. 18 ans plus tard, 2018, la même équipe pose la même question. Et là, les deux mots qui reviennent, c'est sans et bio. Donc, on est passé du plaisir de manger, la gastronomie, à la peur de manger. Tu as parlé tout à l'heure de gastro-anomie. Moi, je parle de gastrophobie. Donc, de la gastronomie à la gastrophobie. Et c'est un réel problème, surtout pour ceux qui aiment manger. Alors, j'étais obligé de centrer mon topo sur un point particulier des régimes excessifs. J'aurais dû vous parler aussi des enfants qu'on met au régime pour éviter qu'ils deviennent obèses, alors que la majorité des enfants n'a aucun risque de devenir obèses. Mais là, je me suis concentré là-dessus. Et déjà, j'ai essayé de voir d'où ça venait. Pourquoi on est passé comme ça, nous, pays qui aimons manger, du plaisir de manger à la peur de manger. Alors, on trouve, notamment en France, pas uniquement, mais on trouve tous ces scandales sanitaires, d'origine alimentaire, qui ont eu lieu. Bien sûr, ça a commencé par la vache folle. Ensuite, beaucoup plus récemment, il y a eu le cheval dans les lasagnes. Alors, le cheval, c'est comestible, même s'il y en a qui ont peur de manger du cheval, mais tu rappelais qu'on peut manger du chien aussi. Mais le cheval, c'est un peu plus comestible que quand même. Mais ça montrait qu'on nous trompait. Donc, on nous trompe en mettant un aliment comestible, mais on nous trompe. Donc, si on fait ça, c'est que ça peut être pire. Alors, ensuite, il y a tout ce qui est à la mode, les perturbateurs endocriniens, on en parle beaucoup, alors qu'il n'y a pratiquement aucune preuve. Les additifs, j'ai dit un mot de ça tout à l'heure, les additifs font extrêmement peur. On les accuse de rendre les enfants hyperactifs. Aujourd'hui, vous savez qu'on a une législation européenne. Quand il y a le début de l'ombre d'un soupçon d'un additif qui pourrait donner un effet indésirable, il est immédiatement retiré du marché. Et puis quant aux OGM, j'en parle, 70% des Français ont peur des OGM. C'est pour ça que les politiques font autant sur les OGM. Aujourd'hui, on n'a absolument aucune preuve. Donc, manger-tu ? Alors, il y en a certains qui essayent, un peu comme nous, de sortir de l'ornière. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Donc, il essaye de montrer que tout ça, ça n'a pas vraiment de base scientifique. Alors, j'ai retiré juste une des phrases du livre. Entre groupes de pression écologistes, on en parlait, pseudo-experts autoproclamés, responsables politiques populistes et grands business, ils sont bien nombreux à tirer profit de paranoïa alimentaire, sur le dos de qui ? Sur le dos de tout le monde, mais plus particulièrement des enfants. Et ce que je vais essayer de vous montrer là, c'est que les enfants sont particulièrement sensibles. Et si tous ces régimes sans, dont on parle depuis tout à l'heure, sont nocifs à peu près pour tout le monde, ils le sont partout. Un enfant où tout est encore possible va nous écouter en particulier. Alors, mes deux collègues précédents ont parlé d'orthorexie, et moi je vais un peu plus loin. L'orthorexie, donc Yanis l'a bien décrit, et là on parle d'orthorexie mentale, comme l'anorexie mentale, hein, vous connaissez, donc une maladie psychiatrique. Là, on est dans l'orthorexie mentale par procuration, parce que c'est de l'enfant. Donc, ce n'est pas l'enfant qui décide, c'est les parents qui décident pour lui. Et à force de vouloir manger sain, on devient psychiatrique. Aujourd'hui, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, ce qu'on considère comme étant une alimentation saine est en fin de compte une alimentation extrêmement malsaine, parce qu'elle conduit à des complications. Alors, ces fameux marchands de peur dont on parle depuis tout à l'heure, ils ont un symbole, le symbole de la malbouffe, qui est ce fameux burger que Yanis rappelait tout à l'heure. C'est si les adultes ont peur de cet aliment, les enfants l'adorent. Mais pas que les enfants, je suis pédiatre, donc je suis presque un enfant, mais moi j'adore aussi. Et les quatre types d'aliments qui sont là-dedans, on en a parlé un petit peu. Je vais en aborder trois. Le sucre, je le mets un peu à part. On pourra en parler si vous voulez. Mais on est dans un lieu où on parle beaucoup depuis tout à l'heure de péché originel. Moi, j'ai fait ma thèse de science sur le fructose, donc j'ai quelques notions. Et j'avais écrit un jour un texte, doit-on avoir peur du sucre chez l'enfant ? Donc j'ai essayé de voir toutes les cause scientifique. Je ne parle pas de l'excès. Tous les excès sont mauvais. Je vais vous parler beaucoup d'excès aujourd'hui. Tous les excès, l'excès de sucre est extrêmement mauvais. Mais à la fin, j'en étais arrivé à dire que c'était la peur du péché originel. Vous savez, l'être humain naît avec une attirance innée pour le goût sucré. Et donc, c'est la peur de plonger dans le péché originel. Je n'ai rien trouvé d'autre. Moi, scientifique, je n'ai rien trouvé d'autre.
Donc, c'est pas très scientifique.
Voilà. Non, mais c'est pour vous dire, je n'ai rien trouvé de scientifique, donc j'étais obligé de plonger là-dedans. D'ailleurs, aux États-Unis, on a des équipes très, très protestantes, vous savez, où le plaisir est empêché. Et donc, c'est eux qui sont surtout anti-sucre. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Justement, je vais le mettre de côté, mais j'en ai déjà parlé. Alors, très rapidement, parce que je savais que Christophe Cellier allait l'aborder avant moi, donc j'ai fait très, très vite les régimes sans gluten, donc qui touchent les enfants. Donc, l'hypersensibilité au gluten, Christophe en a parlé, donc c'est exactement la même définition. Il y a eu très peu d'études chez l'enfant, mais il y a juste celle-là qui est assez originale. Les auteurs ont pris 31 enfants de 11 ans qui étaient dits suspects d'hypersensibilité au gluten. C'est-à-dire que les parents disaient, quand il a du gluten, il ne va pas bien, quand il n'a pas de gluten, il va bien. Donc déjà, on a vu si c'était vrai, on leur a exclu le gluten, et vous voyez, déjà, il y en a 3 qui ont guéri, puisqu'il n'y en a que 28 qui ont été améliorés. Donc ces 28 enfants ont ensuite reçu, en aveugle, c'est-à-dire personne ne savait ce qu'ils recevaient, soit une capsule de gluten qui était l'équivalent d'une baguette, soit un placebo, l'un et l'autre, et un tiers, un peu plus d'un tiers, a réagi au gluten et pas au placebo. Donc il y a aussi un effet nocebo, c'est-à-dire des... Ils croient qu'ils vont mieux. Pour l'histoire de Djokovic, un jour on était venu m'interviewer là-dessus, et le journaliste avait dit que tous les tennismen français avait essayé, Djokovic, il était premier mondial, et il disait que c'était grâce à l'exclusion du gluten. Tous les tennismen français ont essayé le régime sans gluten, ils ont vite abandonné parce qu'ils n'étaient pas meilleurs qu'avant. Donc ça ne marchait pas très très bien. Mais dans les milieux sportifs de haut niveau, 80%. Alors c'est peut-être parce qu'ils sont très très anxieux, qu'ils ont beaucoup d'intestin irritable, et puis courir quand on est ballonné, ce n'est pas pratique, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont en régime sans gluten. Alors quelles conséquences pour le régime sans gluten, donc je l'ai été assez vite parce que je vais insister surtout sur le reste, eh bien, comme Christophe l'a dit, il n'y a aucun risque de carence nutritionnelle. Donc, pourquoi ne pas le faire? Mais c'est surtout terriblement désocialisant. Donc, ça ne mange pas de pain, mais ça coûte du blé. Donc, c'est quand même pas très simple à faire. Donc, ce qu'on fait chez les enfants, c'est autoriser une quantité limitée de blé jusqu'au seuil. C'est ce que tu fais manifestement aussi avec les adultes. Par exemple, une des causes principales de prendre du blé chez les enfants, c'est dans les sauces à la cantine. Ils ne mangent pas le pain, ils ne mangent pas les pâtes, ils ne mangent pas les pizzas, les pauvres. Et en plus, ils mangent les sauces parce qu'ils ne voient pas qu'il y a du blé à l'intérieur. Or, à l'école, souvent les sauces sont ramenées à la fin. Alors, je vais plutôt insister maintenant sur le reste, et notamment les régimes sans lait et bien sûr sans viande. Alors les régimes sans lait, c'était très très à la mode, et c'est de plus en plus à la mode, mais dans le cadre du végétalisme. La principale raison qui conduise les enfants ou les parents, voire certains médecins, à imposer un régime sans lait aux enfants, c'est la suspicion indue d'allergie. Il faut savoir que nous, en pédiatrie, on voit beaucoup d'allergies au lait. Deux tiers, les enfants qui sont étiquetés allergiques au lait, lorsqu'on fait des vrais tests de réintroduction, 2/3 ne le sont pas. Ça veut dire que 2/3 des enfants chez lesquels on impose un régime sans lait devraient avoir un régime normal. J'espère que votre bébé parlera après. Donc, ensuite, on a plein d'autres pathologies, les infections orales à répétition, l'asthme, les migraines, l'autisme, la prévention des cancers, tout ça, ce sont des raisons indues. Alors, pourquoi je parle du lait ? Parce que les apports en calcium, vous savez que le lait, le principal intérêt du lait, c'est d'apporter du calcium, et sont particulièrement importants en pédiatrie, notamment chez l'adolescent. Vous voyez, à partir de 10 ans, il faut 1200 mg de calcium par jour. Alors, ça ne vous dit rien, 1200 mg, c'est pour ça que je vous ai donné ça en équivalence. Voilà, un verre de lait, comme ça, un petit verre de lait, ça apporte 180 mg de calcium. Donc, faites le calcul rapidement, il en faut 6 à 7 fois. Ça. Alors, vous pouvez remplacer par quoi ? Par un yaourt ou 4 petits Suisses. Les petits Suisses qu'on donne beaucoup aux enfants, parce que ça coule moins, sont 4 fois moins riches. Certes, ils sont moins gros, mais ils sont moins riches que le yaourt. C'est du gras. Hein. Les fromages à pâte cuite sont 2 fois plus riches en calcium que les fromages à pâte molle. Je vous gêne, monsieur Saint-Honor. Alors, l'alternative qu'on a, notamment chez les ados, c'est d'utiliser des eaux minérales riches en calcium. Notamment les trois premières, là, vous voyez, avec un litre de ces eaux-là, on a la moitié des besoins, ça fait à peu près 600 mg, la moitié des besoins d'un adolescent. C'est énorme. La totalité. En revanche, d'autres eaux qui n'ont pas de goût, parce que le problème de ces eaux-là, c'est qu'elles ont un goût. C'est parce qu'elles sont minéralisées qu'elles ont un goût. Les autres qui n'ont pas de goût n'ont pas de calcium. Donc, faut choisir. L'eau du robinet, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, l'eau du robinet, même lorsqu'elle est calcaire, n'est pas riche en calcium. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le calcium, comme le fer qu'on va voir tout à l'heure, est un nutriment qui est très mal absorbé. Vous voyez, seul environ un tiers, j'ai pris pour un adulte, environ un tiers du calcium est absorbé. Donc, les 600 mg qui restent se retrouvent dans les selles. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui défendent les végétaux disent, mais vous parlez tout le temps du lait, pourtant il y a plein de végétaux riches en calcium, et en plus, il y a certains végétaux qui sont non seulement riches en calcium, mais avec un calcium qui est mieux absorbé que celui du lait. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Ils ont raison. Ils ont raison. Vous voyez, si on prend comme base d'absorption le lait, avec un facteur de 1, c'est-à-dire un tiers du calcium absorbé, eh bien, on a le chou qui est riche en calcium, et en plus avec un calcium mieux absorbé que celui du lait. Donc il en faut moins en quantité globale. Les brocolis, c'est pareil. Bon, après, il faut trouver des adolescents qui aiment les choux et les brocolis, c'est un autre problème. Mais c'est tout à fait possible de manger des choux et des brocolis. En revanche, on a d'autres végétaux, comme les épinards, qui est aussi un des aliments favoris des enfants, mais les épinards, eux, à cause des phytates et des oxalates qui sont à l'intérieur des épinards, fait qu'il est 5 fois moins bien absorbé. Alors, vous n'avez pas lu, mais vous savez, il y a l'ANSES, qui est une institution publique, qui donne des recommandations. Alors maintenant, avec le problème des liens d'intérêt, ils sont obligés de prendre des pédiatres pour conseiller les gériatres, et l'inverse. Et là, ils n'ont pas trouvé de gériatre, donc ils ont pris des ingénieurs agronomes. Il manquait des vétérinaires. Et il s'avère que le président est végétarien en plus. Donc il a donné des recommandations en disant, mais quand les enfants ne mangent pas de lait, c'est pas trop grave. Il y a des aliments très très riches en calcium, ils n'ont qu'à les remplacer. Alors, j'ai suivi, j'ai dit, bon, peut-être que c'est possible. Et effectivement, il a raison. Regardez, pour avoir les 1200 mg de calcium, c'est facile, hein. 1,7 kg de choux cuits, 2,2 kg de brocolis, 4,3 kg d'épinards. Bon, c'est, ils ont raison, je m'incline. Et je crois qu'il faut... vous rigolez bien, mais c'est pas très rigolo, parce que c'est pas vrai. Donc, vous voyez, déjà, pour assurer avec les produits laitiers, c'est pas simple. Je crois qu'il faut pas faire passer ces messages. Alors, pourquoi on s'inquiète autant? Eh bien, tout simplement parce que la minéralisation osseuse, c'est-à-dire l'accrétion de calcium dans l'os, ne s'effectue que pendant la croissance. Donc, à part une personne ici, pour nous tous, c'est fini. Donc, vous avez encore de quoi faire. Et à partir de la fin de la croissance osseuse, ici, à une déminéralisation inéluctable. Phase de déminéralisation. Donc, si on n'a pas assez mangé de calcium au cours des 20 premières années de notre vie, bien, on va se retrouver là avec le verre. Et la déminéralisation va être la même. Et donc, le seuil de risque fracturaire peut être atteint plus rapidement. Et donc, on peut augmenter son risque fracturaire. Et ceci, toute la vie durant. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, dans cette étude qui est peut-être compliquée quand on n'a pas l'habitude de lire, mais vous allez voir, c'est assez simple à voir. Ils ont regardé le lien entre la consommation réduite de lait et de produits laitiers durant l'enfance en vert, l'adolescence en rouge et l'adulte, l'âge adulte en noir, et le risque de fracture toute la vie. Pour que ce soit significatif, comme on dit dans notre jargon, il faut que le petit rond avec le trait ne touche pas la grosse barre grise. Et vous voyez que les deux qui ne touchent pas, c'est l'enfance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui ne mange pas assez de calcium, de lait, de produits laitiers, eh bien, va augmenter ses risques de fracture durant l'enfance. Alors, vous voyez, c'est tous ces enfants qu'on nous amène parce qu'ils en sont à leur troisième fracture en tombant dans la cour de récréation. Tous les enfants tombent dans la cour de récréation. Et cela, souvent, c'est une insuffisance de produits laitiers. Mais pire encore, regardez là, qui apparaît. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant n'a pas assez mangé de calcium durant les 20 premières années de sa vie, toute sa vie, il va augmenter son risque fracturaire, notamment, ce qui se passe ici, fracture du col du fémur, après la ménopause, donc pour les femmes. Donc, c'est durant l'enfance qu'on assure l'avenir osseux de tous les individus. C'est pour ça que pour nous, pédiatres, on essaie d'assurer en calcium. Alors tout ça, bien sûr, c'est étayé. Et si on prend l'extrême, c'était les végétaliens, qui ne mangent aucun produit d'origine animale, on va en parler, ils ont des apports en calcium, ici c'est des adolescents, qui sont diminués, vous voyez, 660 versus 1060, et ils ont un CMO, c'est le contenu minéral osseux, c'est-à-dire le contenu minéral donc de calcium dans l'os, du col du fémur augmenté, et tout récemment, on a effectivement montré que les végétaliens avaient un risque augmenté de fracture la vie durant, alors que les végétariens qui sont ici en bleu n'ont pas de risque significativement augmenté, un tout petit peu. Ah, et parce que la plupart des végétariens, heureusement, continuent à consommer. Donc, comment on fait pour prévenir les conséquences d'un régime sans lait chez un enfant qui n'en consomme plus? Eh bien, il faut systématiquement les supplémenter en calcium. Il n'y a aucun moyen de savoir quel est son statut en calcium. Aucun. Okay. Aucun moyen simple, on va dire. Il n'y a aucun moyen simple. Donc, on les supplémente systématiquement. Malheureusement, ce n'est pas assez fait. Et préconiser, comme c'est fait, de remplacer par des végétaux, c'est vraiment complètement à côté de la plaque. Ils auraient dû leur conseiller. Et pas la supplémentation en vitamine D, qui doit être systématique. Tout le monde ici perd en prend. Pour ceux qui n'en prennent pas, vous penserez peut-être un jour à moi si vous fracturez. Alors, on passe à un autre régime, alors qui est devenu de plus en plus à la mode, avec notamment tous ces courants écologiques qui font que. Alors, ça vient, vous avez sûrement entendu parler de l'effet cancérogène de la viande. Alors, ça vient du cirque. Centre international de recherche contre le cancer. En réalité, c'est International Agency of Research on Cancer, mais je préfère l'acronyme français, il est beaucoup plus adapté, je trouve. Donc, du cirque. Et il est non seulement discutable, vous allez voir, mais surtout, il ne s'applique pas à l'enfant. Alors, ils ont classé les différents cancérogènes en un, et c'est le plus gros ici, c'est les cancérogènes certains. Donc, on est sûr d'avoir un cancer. Enfin, d'augmenter sensiblement son risque de cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous ne voyez pas, je vais vous traduire. Il y a la cigarette, on est tous d'accord. Il y a l'alcool, on est tous d'accord, mais un petit peu quand même, ça ne fait pas de mal. Il y a le soleil, là aussi, on est d'accord. Et il y a la viande transformée. La viande transformée, c'est ça. Est-ce que, franchement, en France, notamment dans certaines régions de France, où on aime la charcuterie, est-ce que mettre la charcuterie, franchement, je ne crois pas. Et en deux, ils ont mis la viande rouge. Ils ont mis la viande rouge, qui est au même niveau que la friture ou le chauffage extrême, au même niveau que, je ne savais pas que les coiffeurs faisaient beaucoup plus de cancer, et les produits pour les coiffeurs, vous voyez, c'est les ciseaux, et donc la viande rouge. Donc, on a du mal à croire ce cirque, même si parfois ils nous font rire, mais là, j'ai trouvé cet article sur Internet. Vous voyez, on trouve tout, hein, donc on peut tout faire. Alors, c'est en anglais, mais c'est... Vous trouvez à peu près tout cancéreux. Vous avez régulièrement, vous avez dans les médias, on parle du cirque qui a trouvé un nouveau produit cancérigène. Ça fait peur, hein, aujourd'hui, la meilleure façon de contrôler les gens, c'est de leur faire peur et venir comme sauveur. Donc ça et vous voyez, il parle aussi des coiffeurs ici. Ils considèrent que c'est la mauvaise science, je suis d'accord avec eux, qui sont beaucoup plus motivés par une idéologie politique que scientifique. Et d'ailleurs, une revue récente dans un bon journal, très bon journal, a essayé de remettre en cause les conclusions du cirque. Regardez, j'ai traduit cette fois. Depuis quelque temps, des organisations médicales et scientifiques tirent la sonnette d'alarme au sujet des effets néfastes pour la santé de la viande rouge et transformée. de domaine de l'épidémiologie nutritionnelle. Alors, je vais utiliser gangréné, mais c'était plagued by. Plague, vous savez ce que c'est la peste. Donc, empesté, ça ne se disait pas en français. Donc, gangréné, donc, c'est un mot fort, hein, gangréné par des études observationnelles qui ont mené des analyses inappropriées, probablement erronées. Alors, bien évidemment, ils ont été immédiatement attaqués en disant qu'ils avaient des liens d'intérêt, ce qui est possible, probable, mais jusqu'à preuve du contraire, les liens d'intérêt, ça ne nous rend pas plus idiots. Alors, d'autant plus qu'il y a, il y a des facteurs de confusion possibles. En effet, lorsqu'on est des gros consommateurs de viande, comme Yanis et moi par exemple, c'est un lien d'intérêt principal que j'ai ici dans mon topo, eh bien, on aime l'alcool, Yanis, je ne sais pas toi, mais si, bon, qui est un facteur de risque démontré, cette fois, facteur de risque, hein. L'embonpoint, facteur démontré également, bon, avec un faible facteur, mais bon, démontré, la sédentarité avec de l'activité physique, et le tabac. Or, il s'avère que les gros consommateurs de viande sont généralement alcooliques, mais en tout cas, ils aiment l'alcool, ils sont un peu gros, ils sont sédentaires, et ils aiment le tabac, et ils mangent souvent moins de fruits et légumes, et les fruits et légumes, pour certains, protègent contre le cancer du côlon, notamment. Donc, on a un biais, vous savez, dans nos études, ça fait un biais, et distinguer ça, même si les statisticiens, bien sûr, essayent de gommer ces facteurs confondants, en réalité, c'est extrêmement difficile. Vous savez, en pédiatrie, on n'est pas très confronté, mais quand j'étais étudiant, et qu'on me disait, fais attention, quand tu dis que vous buvez de l'alcool, monsieur, il venait pour cirrhose alcoolique. Jamais, je ne bois d'alcool. Je dis, mais la bière, mais c'est pas l'alcool, la bière, c'est quand tu buvais 2-3 litres de bière, je pense que tu dois avoir ça régulièrement. Donc, vous voyez, c'est très difficile quand on fait des études. Alors, ça, c'est pour le côté adulte, mais je reviens à la pédiatrie. Il faut savoir que ce prétendu effet cancérogène de la viande rouge ne s'applique pas à l'enfant. Alors, il y a quelques études, mais j'en ai mis une, en plus, qui est la plus belle, qui a essayé de voir s'il y avait un lien entre la consommation de viande à l'adolescence, parce qu'il n'y a pas de cancer chez l'enfant, et le risque de cancer à l'âge adulte. Et ils n'ont pas trouvé d'effet cancérogène, ils ont même trouvé un effet protecteur de la volaille et des poissons, qui peut être tout aussi discutable. Alors je reviens au sujet, parce que là c'était pour un peu disculper la viande, et pour parler du problème du fer. L'intérêt principal du fer dans la viande, c'est son apport en fer. Il y a deux types de fer. Il y a le fer qu'on appelle héminique, qui est amené par l'hémoglobine ou la myoglobine, c'est des molécules qu'on trouve dans le sang ou dans le muscle, donc dans la viande, et il est bien absorbé. Quand je dis bien, vous voyez, c'est 20-30% de ce qui est ingéré est absorbé. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça bien? Et le fer non héminique, qui est apporté notamment par les végétaux, qui est beaucoup moins bien absorbé. 7 fois moins bien absorbé. Donc il en faut 7 fois plus. Donc quand on voit certains aliments, vous voyez ça ici, eh bien le boudin noir, à condition d'aimer et le sang et le porc, c'est un aliment extrêmement riche, c'est du fer. Moi je traite, mais mes enfants, pas les miens, hein, mais mes patients, par du boudin. Ça marche très très bien. C'est mieux que les médicaments, c'est mieux toléré. Bon, maintenant, encore une fois, il ne faut pas leur dire ce que c'est. Mais quand ils ne savent pas ce que c'est, ils aiment bien. Alors, la viande est bien sûr plus riche. La viande rouge est plus riche que la viande blanche. Et puis, toujours mes amis de l'ANSES, là, ils ont mis les céréales complètes. On va y revenir. Les céréales complètes, effectivement, regardez, c'est très riche. Alors, c'est très variable. Une boîte de céréales. Les viandes rouges. Intéressant. Alors, il y a toujours les épinards et les légumes secs. Alors, avec la Société française de pédiatrie, donc j'ai eu l'honneur de diriger un groupe de travail pour donner les recommandations de la Société française de pédiatrie, et notamment les besoins en fer absorbé, c'est-à-dire ce que, à chaque âge de la vie, les enfants doivent absorber. Globalement, pour être très simple, au tout début de la vie, ce sont surtout les laits infantiles, notamment les laits de croissance, qu'il faut continuer, c'est la recommandation que vous avez donnée, jusqu'à 3 à 6 ans pour assurer les besoins. Et dès qu'on arrête le lait de croissance, ça va être les produits carnés qui vont assurer. Avec, vous voyez, des besoins qui sont d'environ 1 à 2 mg par jour, c'est-à-dire les enfants doivent absorber chaque jour 1 à 2 mg. Pas ingérer, absorber. Alors comment on fait pour absorber 1 mg? Eh bien, alors le lait de croissance c'était 0,7 tout à l'heure, donc un biberon suffit. Et 180 grammes de produits carnés, c'est relativement accessible, on va y revenir tout de suite. On revient aux céréales complètes. qui était effectivement très riche. Mais comme c'est mal absorbé, il en faut 370 grammes. Alors, je ne savais pas, moi, combien c'était 370 grammes, donc j'ai été voir une boîte de Kellogg's. Une boîte de Kellogg's, ça fait 300 grammes. Une boîte normale de Kellogg's, ça fait 300 grammes. Les adolescents, il en faut le double, hein, 2 mg. Ça fait donc 2 boîtes de Kellogg's par jour. Beaucoup, non? Même si elles sont très riches. Bon, après, on a les épinards, les légumes secs, on a les mêmes problèmes que tout à l'heure. Donc, à part ceux qui ont hérité du tube digestif des vaches, c'est assez difficile d'assurer autant de végétaux. Alors, je reviens quand même sur la viande, parce que, justement, on va dire, attendez, 180 grammes, mais attendez, tout à l'heure, j'ai regardé, c'est 2,4 mg qu'il faut. C'est-à-dire 400 grammes de viande par jour. Aucune fille, parce que les filles, pour des raisons que vous imaginez, perdent du fer. Elles mangent 400 grammes de viande par jour. Alors, juste une petite notion extrêmement importante qui est la notion d'apport nutritionnel recommandé. Vous voyez, on entend partout, on parlait de chiffres tout à l'heure, qui sont des chiffres généraux. C'est ça le grand problème de la prévention, c'est-à-dire qu'on a une société très normative, on doit tous être identiques, alors qu'on est tous totalement différents, et tous totalement inégaux, et devant la santé, et devant la prise de poids, notamment. Donc, ces apports nutritionnels recommandés, c'est ceux qui assurent les besoins de 97,5% de la population. 100 moins 2,5. Comme ça, c'est une norme. Donc, quand on est à l'extrême droite de cette courbe de Gauss, obligé, bien sûr, d'être à l'extrême droite, donc ceux qui ont la malchance, ou celles qui ont la malchance d'être à l'extrême droite de la courbe de Gauss, c'est celles-là qui ont des problèmes, parce qu'elles ont des besoins énormes, qui, elles, parce que les filles ont beaucoup plus de besoins, et elles ont du mal à les assumer. Aujourd'hui, 20% des adolescentes, 20% des adolescentes, et d'ailleurs presque autant de femmes, et de plus en plus, sont carencés en fer. C'est la première maladie nutritionnelle de la planète. De la planète. En revanche, si on se place au milieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle la médiane, qui assure les besoins de 50% de la population, c'est pas mal. Eh bien, vous voyez que c'est à peu près 1 mg, c'est-à-dire à peu près 200 grammes de produits carnés par jour. 50% de la population, c'est pas mal. Et c'est pour ça que la recommandation que nous avons faite à la Société française de pédiatrie, et qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend, mais qui n'est sur aucune base scientifique, c'est de donner de 0 à 18 ans, dès l'arrêt du lait de croissance, 2 portions carnées par jour. Alors, là encore, les végétaliens, souvent quand je faisais ces topos, je vois arriver une jolie végétalienne, une femme, parce que les femmes, encore une fois, sont toutes roses, donc pas anémiées, et qui me dit, écoutez, gentiment d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui sont gentils, gentiment me dire, moi ça fait 20 ans que je suis végétalienne, je ne suis pas du tout anémiée, d'ailleurs je me méfie. Et elle a sûrement raison, il n'y a pas de raison qu'elle mente. Effectivement, quand on regarde le fer ingéré de ce qu'ils ingèrent, on ne voit pas de différence, mais c'est du fer ingéré qui est mal absorbé. C'est vrai que beaucoup de végétaliens sont carencés. Vous voyez ici la carence, la ferritinémie diminuée, c'est la carence en fer sans anémie. Là c'est l'anémie par carence en fer, vous voyez c'est des chiffres quand même qui sont impressionnants. Chez les végétaliens. C'est des végétaliens qui sont de 6 à 45 ans. Donc ça reste fréquent. Mais je reviens à l'étude que je vous ai beaucoup montrée, c'est-à-dire celle-ci. Eh bien, c'est une étude qui montre, qui compare des adolescents végétaliens à des adolescents forts, les adolescents encore une fois étant plus touchés, il n'y a pas de différence. Donc, authentiquement, il y a beaucoup de végétaliens qui pourtant ne mangent pas de protéines et qui ne sont pas carencés en fer. Et l'explication que je donne est la suivante. C'est ceux qui ont la chance, ou la malchance, d'être à l'extrême gauche de la courbe de Gauss. Et c'est les gens qui absorbent anormalement, qui ont une maladie, qui absorbent anormalement le fer végétal. Il y en a sûrement parmi vous. Et qui, lorsqu'ils mangent de la viande, ont des taux de fer, de ferritine très élevés. La maladie extrême, c'est ce qu'on appelle l'hémochromatose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Maladie génétique qui fait qu'on absorbe tout le fer et on est obligé de retirer le fer de l'organisme. Et je vous dis ça parce que moi j'ai beaucoup de patientes et de patients adolescents, de plus en plus, qui se mettent au végétalisme. Ils ne veulent pas manger d'animaux. La plupart, au bout de 2-3 mois, sont carencés en fer. La carence en fer, au cours du végétalisme, c'est de très loin la première carence qui apparaît. Avec une fatigue, enfin une sensation de mal-être. Et la plupart de ces adolescents reprennent la viande. Sauf ceux qui sont là. Et ceux-là, ils persistent. Et quand je vois arriver quelqu'un qui est végétalien depuis 20 ans, ou les études qui sont bien évidemment faites sur des végétaliens depuis très très longtemps, à mon avis, on va chercher ceux qui sont là. On oublie les dizaines, les centaines et milliers d'adolescents qui se mettent au végétalisme et qui l'abandonnent parce qu'ils vont mal. Voilà, donc il ne faut pas penser que les végétaliens sont tous capables de ne pas... Donc, comment on fait quand on voit un enfant qui ne mange pas assez de produits carnés? Eh bien, on va le supplémenter en fer, mais on va s'assurer d'abord qu'il est carencé. Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas tous carencés. Donc, on va faire un dosage qu'on appelle la ferritinémie, et on va les supplémenter. Et puis, on va lui rappeler, parce qu'on va dire, oui, mais moi, je mange beaucoup de légumes secs. On va lui rappeler qu'il en mange quand même énormément. Et puis, quelque chose de très, très grave, c'est les steaks végétaux. Les steaks végétaux n'ont rien à voir dans le steak. Alors, quand on voit le contenu en fer d'un steak végétal, de soja, c'est beaucoup. Mais c'est un fer qui n'est pas absorbé. Et regardez ce qui est absorbé. Il faut aboutir à 1 mg. Donc, il faut en absorber énormément de steaks de soja. Donc, aujourd'hui, les steaks de soja ne peuvent pas remplacer les vrais steaks. Allez, on va terminer, petit quart d'heure qui me reste, avec l'extrême, c'est-à-dire les régimes végétaliens, qui cette fois vont tout exclure, absolument tout, tout ce qui est d'origine animale, c'est-à-dire en plus de la viande et des produits laitiers, les poissons, les œufs, le miel. Le véganisme dont on parle tout à l'heure est encore au-dessus, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas du tout tout ce qui est dû à l'exploitation animale. Alors, quelles sont les motivations du végétarisme ou du végétalisme? Il y a peu d'études sur le végétalisme, donc là, c'est surtout le végétarisme. L'enfant végétarien se distingue de l'adulte végétarien par deux motivations plus que d'autres. Des motivations qui sont éthiques. Donc éthique, c'est, on va y revenir tout de suite, c'est faire de mal aux animaux notamment. Et environnemental, mais on a parlé tout à l'heure d'une peau gamine psychopathe qui est exploitée pour justement toucher les adolescents. Et je pense qu'ils sont assez matraqués et endoctrinés pour compenser ça. Je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je suis totalement incompétent là-dessus. Dans mon expérience, sans aucune contestation possible, c'est la défense de la cause animale qui conduit les jeunes adolescents et de plus en plus d'enfants. J'ai vu une petite de 10 ans un jour qui était devenue végétalienne. Je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Je ne veux pas manger ce qui a des yeux. » J'espère qu'elle en mangeait. Alors, ça, c'est le végétalisme. Et puis, Yanis l'a évoqué très rapidement, mais il y a des mouvements extrémistes qui considèrent que tout être vivant doit être à égalité, qui prennent parfois des positions à la fois extrémistes et violentes, voire stupides. Un de mes confrères me racontait qu'un jour, il voit arriver une maman pour sa fille qui a des poux. Alors, elle lui dit, très bien, je vais vous donner un produit. Puis la maman, elle lui dit, mais attendez, est-ce que ça va tuer les poux? C'est l'objectif, oui. Alors, dans ce cas-là, je préfère qu'elle les garde. Bon, j'espère que cette dame n'aura jamais de morpion, mais bon, pour l'instant. Alors, les risques du végétalisme sont absolument extrêmes. Juste un cas un peu impressionnant pour vous impressionner. C'était mes collègues de l'ENI qui m'ont dit ça. Donc, Chirel, qui a deux frères allergiques au lait, et apparaît un eczéma à l'âge d'un mois, et le médecin la met sous lait de riz. Je ne savais pas que les riz avaient des mamelles, mais bon, en tout cas, en lait de riz. Et cette pauvre gamine ne croit plus, et surtout quand elle arrive à l'hôpital, voilà son état. Elle est donc hospitalisée, elle a cette éruption, qui va être une carence en zinc, est assez connu. Les protéines, donc pas de zinc, pas de vitamine B1. Elle va simplement être alimentée avec un lait normal pendant un mois. Regardez comme elle est belle maintenant. Donc, elle va pouvoir récupérer. Alors, avec une de mes collègues, on a fait une étude multicentrique. On a essayé, avec toute la France, de recueillir des observations. C'est la plus grosse observation jamais publiée d'enfants nourris avec une boisson végétale inadaptée, et les conséquences sont dramatiques. Vous voyez, c'était un âge de consommation à 5 mois, donc des tout petits enfants qui recevaient, etc. D'où venait la déviance? Des médias. Je crois qu'on ne pense pas assez. Sur Internet, vous avez des sites qui prônent cette déviance alimentaire. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, des ostéo-naturopathes, qui était quand même l'instigateur dans un tiers des cas. Et puis, on est dans le même courant de pensée. plus de la moitié de ces enfants étaient non ou insuffisamment vaccinés. On est dans un courant de pensée identique. Alors, c'est dramatique puisqu'on a quand même un décès. Un enfant qui est mort parce que ses parents ont décidé qu'il était végétalien. Et ceux qui ne sont pas morts avaient des complications sévères dont certains vont garder des séquelles à vie. Alors, j'ai été longtemps agressif, à tort. Mon métier, ce n'est pas d'être agressif, c'est d'aider. Donc maintenant, je ne le suis pas. Donc on en voit régulièrement. Et d'ailleurs, récemment, il y avait des enfants qui avaient été retirés par la justice à ses parents parce qu'ils étaient végétaliens alors qu'ils avaient compris. Le père était centralien, donc on n'est pas dans un intellectuel très élevé. Et je me suis battu pour qu'ils récupèrent leur enfant qui était devenu anorexique parce qu'il comprenait. On l'avait retiré de ses parents. Donc ces parents-là, il ne faut pas essayer de les convaincre. On ne peut pas les convaincre. Ils sont eux-mêmes convaincus que le lait est très mauvais pour la santé. Donc il existe dans le commerce des préparations infantiles à base de riz. Comme ça, tout le monde va être content. Les parents parce que leur enfant va avoir un régime végétalien et l'enfant parce qu'il ne va pas avoir de complications. Le seul problème, c'est qu'il faut le poursuivre longtemps, au moins 6 ans. Et c'est ça qui pose le problème. Passons maintenant à l'étage au-dessus. Des adolescents. Donc, il y a des risques. Je vous ai déjà décrit les risques de carence en calcium et en fer, qui, bien évidemment, sont répétés ici, parce qu'ils ne mangent ni lait, ni produits carnés. Juste illustration, un enfant que j'ai suivi, dame, 13 ans, végétalien depuis des années, et, d'ailleurs, pas carence en fer, et paraplégique. Il est arrivé à l'hôpital Trousseau, paraplégique, paralysé des deux membres inférieurs. Très rapidement, l'électromyogramme, qui est un examen qui permet de voir d'où provient la paralysie, a trouvé ce qu'on appelle une sclérose combinée de la moelle, qui est une maladie due à une carence, en vitamine B12, qui est une vitamine dans le milieu animal. Donc, il a abandonné le végétalisme, il a eu la chance, il a récupéré la motricité de ses jambes, normalement il reste paralysé à vie, mais c'était un athlète de haut niveau, et il ne pouvait plus faire d'athlétisme. Alors, comme je vous l'ai dit, la vitamine B12 est une vitamine qu'on trouve que dans le milieu animal. Et donc, les végétaliens, par définition, et d'ailleurs, quand vous allez sur les sites végétaliens, les végétaliens ont un niveau intellectuel très élevé. Donc, quand on va sur les sites végétaliens, il est bien écrit qu'il faut qu'ils soient tous supplémentés en vitamine B12. D'ailleurs, vous voyez, là, ici, zéro. Ils n'ont pas de vitamine B12. Alors, non seulement ça donne des paralysies, mais c'est aussi lié à un score cognitif. Vous voyez, ici, ils ont montré la corrélation entre la carence en vitamine B12 chez des adolescents végétaliens et l'intelligence. Et il y a une corrélation, c'est-à-dire que ça ne se voit pas. Ça, vous avez l'avantage, quand on est moins intelligent, c'est qu'on ne le sait pas. Donc, toutes ces maladies-là, que ce soit le fer, que ce soit les acides gras essentiels dont je vais parler, ça rend moins intelligent, mais on ne le sait pas. Donc, il faut des études comme ça pour s'en rendre compte. Donc, la carence en vitamine B12 qui doit être compensée. Et puis enfin, les poissons. Ma grand-mère me disait, certains ont parlé de leur maman, moi je parle de ma grand-mère. Ma grand-mère me disait de manger du poisson, parce que ça le rendait. En tout cas, elle me forçait à manger du poisson. Et il y a dans le poisson une molécule qu'on appelle DHA, l'acide docosahexaénoïque, pour les passionnés, et qui est un acide gras qui est indispensable au développement cérébral. Et donc, c'est pour ça qu'il faut manger du poisson pour être intelligent, notamment du poisson gras, saumon, sardine, une à deux fois par semaine. Ils n'en mangent pas. Alors, il y a bien une alternative, mais enfin, elle est gênante pour les végétaliens. Même pour les non-végétaliens, là aussi, ma grand-mère m'en faisait beaucoup, de la cervelle. Et donc, on en mange moins. Alors, c'est moins riche. Hein. Une cervelle d'agneau, ça pèse à peu près 100 grammes, 0,6 grammes, mais c'est une alternative. Donc, il manque de DHA. Mais il y a une solution pour eux, c'est ces algues, des micro-algues, d'ailleurs, algues que les poissons consomment pour avoir du DHA. Et voilà, ça s'achète dans les magasins Biocoop et Naturalia, ça coûte une fortune. Mais ça amène le DHA et c'est du vrai DHA. Donc, il faut qu'ils aillent là-dedans. Et il n'y a pas d'études pédiatriques, mais il y a 5 études chez les adultes végétaliens et qui montrent que tous les végétaliens sont carencés en DHA. Enfin, pour terminer dans les carences, 2 idées reçues. La première, pas très reçue, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, ils ne sont pas carencés en calories. Mais surtout, ils ne sont pas carencés en protéines. J'entends très très souvent dire « Ah, mais ils sont carencés en protéines ». Et certains utilisent cet argument pour dire qu'il ne faut pas qu'un enfant soit végétalien. Le niveau intellectuel des végétaliens est extrêmement élevé. Et donc, ils sautent sur l'occasion en disant il a dit une bêtise, et ils ont raison. Les végétaliens ne sont pas carencés en protéines. Regardez, ils mangent moins de protéines que les omnivores, que ce soit les garçons ou les filles. Ils restent toujours au-dessus des besoins recommandés qui sont très très bas. Alors pourquoi on parle de carence en protéines? Parce qu'on croit que les protéines, il y en a que dans la viande. Moi, souvent, on me dit à quel âge on introduit les protéines chez l'enfant? Je dis à la naissance, sinon il meurt. Les protéines, ce n'est pas de la viande. Et pourquoi on parle de protéines? Parce que dans les protéines végétales, il manque un acide aminé essentiel. C'est quoi un acide aminé essentiel? Il y a 8 ou 9, ça dépend. 8 acides aminés essentiels que l'être humain n'est pas capable de synthétiser. Et donc, on est obligé de manger. Si on n'en mange pas, c'est comme si on n'avait pas mangé de protéines. C'est ce qui arrive chez les pauvres enfants africains qui mangent que des céréales, qui mangent deux fois leurs besoins en protéines et qui sont carencés en protéines parce qu'il leur manque un acide aminé. Alors, dans les céréales, il manque un acide aminé essentiel qui est la lysine. Et dans les légumineuses, les légumes secs, la méthionine. Et c'est pour ça que, où vous alliez dans le monde, vous voyez que les nourritures ancestrales, qui ont peu accès à la viande, mélangent toujours céréales et légumineuses. Le plus grand symbole, c'est le couscous. Le couscous, c'est du blé et du pois chiche. Je me suis toujours demandé pourquoi, j'aime pas les pois chiches, je me demandais pourquoi on mettait des pois chiches, ben, c'est pour ça. C'est-à-dire pour donner la méthionine. Et puis, il y a quelques végétaux, soja, quinoa, qui, eux, ont très peu de carence, plus ou moins quand même la méthionine. Donc vous comprenez pourquoi dans certains milieux c'est assez bien équilibré. Alors si vous voyez un médecin ou un enfant végétalien, eh bien plutôt que lui dire c'est n'importe quoi, il va faire ci, il va faire ça, on peut prévenir les parents, c'est notre devoir d'informer les parents, mais plutôt que de lutter, on dit très bien, ben voilà, il faut qu'il consomme chaque jour, ou presque, vitamine B12 c'est pas chaque jour, R, calcium, vitamine D, vitamine B12, DHA. Donc c'est tout à fait possible d'avoir une vie normale. Non, quand même, parce que ne pas manger des produits laitiers, mais en ayant 5 compléments quotidiens. Encore une fois, les enfants sont particulièrement sensibles. Et puis, on parle beaucoup d'histoire. Je vais remonter encore plus loin. Et je vais remonter à la sélection des enfants. Aujourd'hui, vous n'êtes pas pédiatre, mais vous le savez aussi bien que moi, que les enfants aiment la viande, les enfants aiment les produits laitiers et les enfants n'aiment pas les légumes. Je suis convaincu que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que l'être humain est fait pour manger de la viande, pour manger des produits laitiers et pour ne pas beaucoup manger de légumes. Donc, je regrette que certains cherchent à détruire ce que la nature a mis des millénaires à construire. Donc, j'avais commencé en vous parlant de la malbouffe des marchands de peur. Pour moi, la véritable malbouffe, c'est le végétalisme. Parce que les enfants qui mangent des cheeseburgers, vous imaginez que j'en ai vu des milliers, tous ceux que j'ai vus manger des cheeseburgers, aucun effet indésirable, je rappelle juste, mais ce n'est pas le sujet du jour, il n'y a aucun lien entre les fast-foods et l'obésité de l'enfant. Mais par contre, des enfants végétaliens qui ont des complications, j'en vois de plus en plus avec des complications. Donc, pour moi aujourd'hui, puisqu'on voulait parler de malbouffe, la véritable malbouffe, c'est ce végétalisme. Et en dehors du problème, et je terminerai là-dessus, il y a tout le côté social qui est extrêmement compliqué. Et je l'illustrerai par, c'est des adultes, mais ça revient au même, vous voyez. Nous ne mangeons pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson, pas de gluten et pas d'arachide. Que nous conseillez-vous? Je vous remercie. S'il y a des questions.
C'est basé sur des cas que vous rencontrez, donc je peux comprendre.
Vaut mieux rire que pleurer.
Ben oui, mais de voir des enfants qui...
C'est pour ça que je réagissais mal au début, mais j'ai eu tort. Je fais mon mea culpa.
Non mais... maintenant, trouver les moyens d'avoir... On va parler des sociétés.
Qui vendent
tous ces produits DHA, tous les compléments alimentaires, est-ce qu'ils sont nécessaires? Est-ce que c'est un marché qui va comme ça?
On m'accuse assez souvent de défendre ou de critiquer végétalien parce que j'ai des liens d'intérêt avec les industriels qui notamment vendent les laits infantiles. Je ne pourrais pas faire la même chose, mais néanmoins, avec Yanis, quand on était à l'Assemblée, donc une personne a montré
que L214, vous avez entendu parler de cette secte qui pro-végétalienne, serait, on va dire ça, hein, mais même si ça paraît certain, serait financée par la Silicon Valley, à raison quand même de plus d'un million de dollars, pour la viande artificielle. Je ne sais pas si c'est vrai, ça paraissait sérieux.
Ça demande à être prouvé, en tout cas.
Voilà, mais c'était à l'Assemblée nationale. Bon, je ne vais pas dire que c'est vrai, je dirais même que c'est plutôt l'inverse. Mais il y a quand même un doute là-dessus. Mais bon, encore une fois, comme je suis attaqué que sur ce plan-là, parce que sur le plan scientifique, ils n'y arrivent pas, aller sur le même chemin, ça m'embête. Mais peut-être. Vous avez raison. Vous avez raison. D'abord, manger moins de viande, peut-être chez l'adulte. Chez l'homme, c'est sûr. Nous, hommes, on a besoin que d'une portion carnée, ça nous suffit largement. Après, on peut prendre du plaisir à en manger plus. Chez les femmes, par contre, 20% des femmes sont carencées. Et je reviens aux sociétés. Là encore, il y a une sélection génétique très probable. C'est-à-dire que ces sociétés, notamment les hindous, vous pensiez peut-être aux hindous qui sont végétariens, ils ont probablement été sélectionnés parce qu'être carencé en fer, ça augmente terriblement la morbidité, voire la mortalité il y a quelques temps. Et je pense qu'il y a une sélection et qui fait qu'ils sont à gauche de la courbe de Gauss. Je n'ai pas pu le démontrer. J'essaie de le faire là en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est assez intéressant parce qu'ils mangent très peu de viande. Enfin, il y a des contrées d'Afrique où on mange très très peu de viande. Et on voit certaines contrées où on mange très peu de viande, les enfants sont peu carencés en fer. Donc je suis convaincu, et c'est ce que j'essaie de démontrer, mais ce n'est pas simple, qu'ils ont été sélectionnés pour absorber anormalement le fer. Et les gènes surtout.
Ouais. D'accord.
Donc c'est pas très. C'est une hypothèse, c'est pour ça que je l'ai mise sous forme d'hypothèse. Mais vous avez raison, vous avez raison, est-ce qu'il faut diminuer la quantité de viande? Je suis volontairement pas, j'ai volontairement pas été dans le domaine écolo-environnemental parce que je n'y connais rien, et je risquerais de dire des bêtises, mais en tout cas, dans le domaine médical, chez l'enfant et chez la femme, je ne vois aucun argument pour diminuer la consommation. Et j'en vois, au contraire, des arguments pour l'augmenter.